Exode au chapitre 3, s'il vous plaît. Notre thématique depuis plus d'un an, c'est « Soyez remplis de l'Esprit ». Nous étudions les différentes facettes de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Et au travers de tout ce que le Saint-Esprit est, de tout ce qu'il fait, de tout ce que nous voyons dans la parole, nous en tirons sans cesse des applications pratiques et nouvelles pour nos cœurs, pour nos vies. Nous avons déjà abordé ensemble la symbolique de l'huile. Nous avons abordé aussi la symbolique de l'eau. Le Saint-Esprit est symbolisé dans la parole par de l'huile, par de l'eau, par le feu dont nous allons parler en partie ce matin. Il est symbolisé aussi par une colombe, il est symbolisé aussi par le vent. Et dans chacun de ces symboles, il y a des applications pratiques, des enseignements profonds pour chacun de nos cœurs, pour chacune de nos vies. Vous savez que ce qui est sur mon cœur, c'est que nous soyons une église, des disciples, des chrétiens, embrasés, remplis du Saint-Esprit, remplis de la présence de Jésus par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu, le Saint-Esprit, tout autant Dieu que le Père, tout autant Dieu que Jésus, le Fils. Il y a énormément de textes qui le concernent. Et j'aime souvent dire que Jésus n'a jamais présenté la vie chrétienne autrement que rempli du Saint-Esprit. Essayer de vivre une vie chrétienne sans Dieu le Saint-Esprit, c'est une aberration, c'est voué à l'échec. Jésus, tout comme les apôtres derrière lui, n'ont jamais présenté la vie chrétienne autrement que rempli du Saint-Esprit. Si je ne suis pas rempli de lui, rempli de sa force, rempli de sa puissance, rempli de ses attributs, rempli de tout ce qu'il est, rempli de tout ce qu'il a, il y a tellement de domaines dans lesquels je vais rester pauvre, vulnérable, orphelin, même puisque les disciples se sont retrouvés orphelins. Et quand le feu de la Pentecôte est descendu, d'orphelins, de pauvres et de vulnérables qu'ils étaient, ils sont devenus riches, ils sont devenus puissants. Il y a énormément de choses que Jésus a fait passer au travers d'eux. Ils étaient sans arrêt spectateurs pendant 3 ans et demi. Ils étaient spectateurs, toujours émerveillés de ce que Jésus faisait. Ils découvraient toujours une nouvelle facette de ce que Jésus pouvait faire. Mais en réalité, rien ne passait jamais par eux. Ils étaient toujours, excusez-moi, dans un super spectacle évangélique orchestré par Jésus, mais en vérité, ils ne vivaient rien. Mais à partir du moment où ils ont laissé, par la foi, par l'obéissance, ils sont rentrés dans cette dimension le jour de la Pentecôte, alors à ce moment-là, ils sont rentrés dans une autre dimension de vie. Et la volonté de Dieu pour chacun de ses disciples, c'est qu'ils vivent une vie embrasée, une vie en feu. Parce que le feu évoque la vie, il évoque la lumière, il évoque la chaleur, il évoque la passion. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire par rapport au feu. Et j'ai sélectionné juste 2-3 éléments pour nous ce matin, pour vous encourager à chercher constamment une vie remplie de feu, du feu de l'Esprit. Exode, chapitre 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était, notez bien, tout en feu. Le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père. » Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Je crois que nous avons toujours été et nous sommes toujours appelés à faire la différence par le feu. Mais pas n'importe quel feu, le feu du Saint-Esprit. Dans ce monde, vous le savez, il y a des tonnes de feux différents. Des feux qui ne servent à rien, des feux qui consument, qui détruisent les gens. Ce n'est pas la peine que je m'étale, ce n'est pas le point principal. La différence ici, le feu de l'Esprit, c'est un feu qui ne s'éteint pas et c'est un feu qui ne consume pas, qui ne détruit pas celui qui brûle. Le feu de l'Esprit est un feu régénérateur. La différence de ce feu, c'est que c'est un feu qui ne s'éteint pas. Le feu, c'est vrai que dans la parole, c'est souvent un moyen pour Dieu de se révéler. On voit par exemple Élie sur le mont Carmel, tant d'autres occasions. Le feu est un moyen pour Dieu de faire la différence. Mais ce qui était encore plus précis, ce qui a vraiment attiré l'attention de Moïse cette fois-ci, ce n'était pas qu'un buisson brûle. Des buissons qui brûlent dans le désert, ça n'a rien d'extraordinaire. Sous l'effet de la chaleur et de la sécheresse, des buissons qui brûlent. Vous savez, dans le désert de ce monde, des buissons qui brûlent et qui se consument, détruits, il ne reste que des cendres calcinées, on le voit dans tous les domaines. Non, ce qui a interpellé Moïse, c'est le verset 2. Le buisson, déjà, le buisson était tout en feu, et en plus, il ne se consumait pas. Mais depuis 40 ans qu'il était dans le désert, parce que dans le contexte ici, ça fait 40 ans que Moïse a quitté l'Égypte. Ça fait 40 ans qu'il a quitté son ancienne vie. Ça fait 40 ans qu'il a pris la fuite. Ça fait 40 ans qu'il a essayé de faire l'œuvre de Dieu et que ça s'est soldé par un échec et qu'il a dû prendre la fuite. Ça fait 40 ans qu'il voit des déserts, qu'il voit des buissons en feu qui se consument instantanément. Ce qui l'a interpellé, c'est pas le buisson, parce qu'un buisson en soi, c'est rien. Ce qui l'a interpellé, c'est pas un buisson en feu, puisqu'un buisson en feu en soi, c'est normal. Un buisson, c'est fait pour brûler. Ce qui l'a interpellé, c'est le feu qui était à l'intérieur. Ce feu-là était différent, il était puissant, il était ardent, il brûlait en permanence, mais il ne détruisait pas le buisson. À la Pentecôte, en acte 2, vous ferez bien attention si vous relisez les textes que je vous ai mis ici. Les langues de feu se sont posées sur chacun de ceux qui étaient là, sur les 120 dans la chambre haute. Les langues de feu se sont posées et ce feu de la Pentecôte a attiré l'attention. Tout compte fait, peut-être qu'on peut le lire aussi quand même, puisque c'est un parallèle important. Et c'est très simple à trouver dans vos Bibles, acte 2. Acte 2, verset 3, verset 6 à 8, verset 11 à 13. Acte 2, verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? C'est-à-dire, c'est des braves gens qui n'ont aucune instruction. Ils sont incapables, ils n'arrivent même pas à parler leur propre langue comme il faut. Comment ils font pour parler la nôtre sans jamais l'avoir appris et la parler mieux que nous, dans une langue excellente ? Versets 11 à 13, « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» D'autres se moquaient, c'est sûr, et disaient « ils sont pleins de vin doux ». Mais d'autres étaient dans l'étonnement et on sait que derrière cela, il y a eu un réveil des consciences, on va en parler tout à l'heure, et une grande moisson d'âmes. Le feu de la Pentecôte aussi a attiré l'attention. Le Saint-Esprit est toujours, dans la parole et encore dans les temps actuels est toujours le feu qui ne s'éteint pas, le feu que nous devons chercher, comme on l'a entendu chanter dans la chorale, le feu que nous devons rechercher, parce que c'est le feu qui fait toujours la différence. Le feu, c'est l'esprit. Le buisson, c'est vous, c'est moi. Le buisson, c'est sûr qu'il est insignifiant. Quand vous regardez un buisson dans le désert, excusez-moi, c'est moche. Ça n'a pas de valeur. C'est quelconque, c'est banal, c'est pas beau un buisson, c'est chétif, c'est éphémère, il y a tellement de qualificatifs. Mais pourtant, c'est indispensable. S'il n'y a pas de buisson, il n'y a pas de feu. S'il n'y a pas de buisson, il n'y a pas de feu. S'il n'y a pas de combustible, il n'y a pas de feu. Le feu, il ne se promène pas comme ça en l'air. Le feu, il lui faut quelque chose. Il doit être nourri de quelque chose. Le feu de l'esprit, il est nourri de l'offrande de ma vie. Le feu de l'esprit, il est nourri de ma propre consécration. Et il faut absolument un buisson. Le buisson est quand même indispensable en tant que combustible. Même s'il est banal, même s'il est éphémère, et c'est ce que je suis, mais il est indispensable dans la volonté de Dieu, parce qu'une des caractéristiques du feu, c'est qu'il lui faut toujours quelque chose à brûler. Le feu de l'esprit veut et peut encore faire la différence aujourd'hui. À Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, en PACA, en France, il veut, il peut, c'est pas un problème, mais il lui faut absolument des buissons. Et souvent, malheureusement, c'est nous qui soit contenons le feu de l'esprit, c'est nous qui l'attristons, c'est nous qui l'éteignons, c'est nous qui le contenons au point de l'éteindre, ou alors c'est nous en tant que buisson qui ne sommes pas disposés et qui ne sommes pas disponibles. Mais je peux vous dire qu'à la lumière de la parole, et même depuis 2000 ans que le canon est clos, je peux vous dire que chaque fois que le Saint-Esprit a trouvé des buissons disposés et disponibles, ça a brûlé, hein, mais ça a brûlé bien comme il faut. Et il y a eu des réveils de conscience et il y a eu des révélations. Aujourd'hui, le sacrifice vivant, l'offrande de nos cœurs, l'offrande de nos vies, l'offrande, le sacrifice qui était posé sur l'autel et qui était agréé par Dieu, sur lequel Dieu faisait descendre son feu comme signe d'approbation, aujourd'hui, cette offrande, c'est nous. Et le chemin de la vie en feu, c'est évidemment la consécration, l'offrande de nos vies. Il n'y aura jamais de feu sans buisson. Il n'y aura jamais de feu sans sacrifice. Il n'y aura jamais de feu sans l'offrande de ma vie. Voilà, j'ai terminé ici ce point en vous mettant ici en bas. Nous sommes des buissons, nous sommes les buissons dans le désert de ce monde. Le feu de l'esprit, vous savez, ce n'est pas une expérience ponctuelle, ce n'est pas une expérience passée. Je vous l'ai dit en introduction, Jésus nous montre, les apôtres nous montrent que la Pentecôte, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre, c'est un mode de vie présent et permanent. Ce n'est pas ponctuel et passé. La Pentecôte, ce n'est pas une date que j'ai mise sur ma Bible en dessous de la date de mon baptême. Baptisé du Saint-Esprit le... Et je me souviens que ce jour-là, j'avais peut-être baragouiné quelques mots en langue, mais de toute façon, dans les quelques jours qui ont suivi, le feu était déjà éteint, il n'y avait plus rien. Et malheureusement, la Pentecôte devient une espèce de médaille évangélique, une espèce de récompense, une espèce de rétrospective du passé. Non, la Pentecôte, c'est une façon de vivre. Nous sommes appelés à vivre une vie tout en feu. Le buisson était tout en feu, et il ne se consumait pas, parce que le feu, la vie du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit, c'est une façon de vivre. Et il n'y a que ce feu qui peut faire la différence. J'ai désespérément besoin du feu du Saint-Esprit. L'Église en France, aujourd'hui, elle n'a pas besoin de trucs géniaux, elle n'a pas besoin de stratégie, elle n'a pas besoin de méthode, elle n'a pas besoin d'innovation, même si c'est vrai qu'elle doit rester moderne et vivre dans son temps, elle n'a pas besoin de trucs géniaux, de stratégie. L'Église en France aujourd'hui, elle a besoin de retrouver le feu du Saint-Esprit. Et ça va faire toute la différence. Parce que le feu de l'esprit a toujours fait la différence. C'est ça, le monde a l'habitude de voir des gens qui brûlent. Ils brûlent pour la politique, ils brûlent pour la sexualité, ils brûlent pour les philosophies, ils brûlent pour un tas de choses. Et ça les consume et ça se termine toujours mal par des déceptions. Mais quand ils voient un feu dans vos vies, un feu qui ne vous détruit pas, mais un feu non pas destructeur, mais un feu régénérateur, un feu qui vous fait vivre, un feu qui amène en vous une passion, une dimension. Les gens doivent vous regarder et se dire, mais qui sont ces gens qui ont une vie que je n'ai pas ? Qui sont ces gens qui ont en eux un feu que je n'ai pas ? Un feu qui les fait brûler d'amour pour leur Dieu ? Qui sont ces gens qui aiment leur Dieu plus que leur baraque, plus que leur carrière, plus que leur vie, plus que leur argent ? Qui sont ces gens qui brûlent, qui brûlent, qui brûlent ? Et plus ils brûlent, plus ils sont extraordinaires. Le monde a besoin de voir ça. Qui sont ces gens qui aiment Dieu plus que tout le reste ? Qui est ce Dieu qui brûle en eux ? Qui est-il pour les faire s'aimer les uns les autres comme ils s'aiment ? Qui est ce Dieu qui fait brûler en eux un feu, une passion qui font qu'ils aiment les perdus plus qu'eux-mêmes ? Le feu interpelle. Il y aura toujours des réactions. S'il n'y a pas de réaction, c'est grave. S'il n'y a pas de réaction quand on me voit vivre, ça veut dire que je ne fais pas encore la différence dans ce monde. Des réactions, il doit y en avoir, bonnes ou mauvaises. Des bonnes réactions, comme à la Pentecôte, ils furent confondus. Et après être confondus, ils se sont réveillés et ils ont donné leur cœur à Dieu. Vous connaissez toute la suite, l'appel des 3000 après la prédication de Pierre. Il y a des réactions. Et même si elles sont mauvaises, ça m'est égal. Si on se moque de moi, quelque part, je suis un peu content. Je ne suis pas maso, mais je suis content. Parce que je me dis, au moins, ils ont réagi. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose ici qui les a dérangés. Il y a des réactions. C'est normal. Le feu, ça fait réagir. Ça fait réagir de différentes façons. Mais une vie en feu, ça fait toujours réagir les gens qui sont autour. Que le monde soit interpellé en nous voyant, et se disant, mais qui sont ces gens qui ont une puissance de vie, une qualité de vie que nous, nous n'avons pas ? Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si votre vie est en feu, croyez-moi, vous allez faire la différence. Certains se moqueront, d'autres seront confondus, mais de toute façon, si vous brûlez, on viendra vous voir brûler. Et aujourd'hui, frères et sœurs, la seule façon pour l'Église de faire la différence dans les temps présents et dans le temps à venir, dans les temps de ténèbres qui s'épaississent sur la terre, c'est de vivre une vie puissante, une vie bouillante, une vie enflammée, une vie passionnée. C'est de revenir au feu de la Pentecôte, c'est de retrouver le feu de l'Esprit dans nos vies. Amen pour ce premier point. La deuxième chose que va m'enseigner ce texte est le récit de la Pentecôte. C'est que le feu, le Saint-Esprit, réveille les consciences. Mais attention, on aimerait souvent que les autres se réveillent et arrivent à l'Évangile. Je vois dans le texte que nous avons lu, et dans le texte de la Pentecôte, que, et dans d'autres, que avant de réveiller la conscience des non-croyants, le feu du Saint-Esprit a réveillé la conscience des croyants. Moïse a expérimenté cette révélation de Dieu, il a expérimenté ce réveil de sa conscience. Et c'est toujours dans cet ordre que ça marche. D'abord ma conscience, ensuite celle des autres. Voyez, je vous ai dit dans le contexte, Moïse, ça fait 40 ans qu'il a quitté l'Égypte. L'Égypte, dans l'analogie, c'est l'image de son ancienne vie, c'est l'image de notre vie d'esclavage dans le péché, de servitude, c'est l'image de notre ancienne vie. Moïse, ça fait 40 ans qu'il a quitté l'Égypte. Ça fait 40 ans qu'il appartient au Seigneur. Ça fait 40 ans qu'il est sauvé. Excusez-moi, ça fait 40 ans qu'il va à l'église. Ça fait 40 ans qu'il est dans le désert. Ça fait 40 ans qu'il a l'habitude qu'il ne se passe rien, à part un feu de paille par-ci, par-là de temps en temps. Ça fait 40 ans que Moïse, excusez-moi l'expression, est totalement déconnecté. L'Égypte, pour lui, c'est juste un souvenir. Il est dans le désert, il est dans une espèce de routine, il a l'habitude qu'il ne se passe rien, et ça fait bien longtemps qu'il n'entend plus ce qui se passe en Égypte. alors que Dieu, lui, dit « Je suis l'Éternel. J'ai vu la souffrance de ceux qui ne sont pas encore à moi. J'entends leurs cris dans leurs ténèbres et dans leurs péchés. Mais toi, Moïse, ça fait 40 ans que tu vis dans ton désert et tu n'entends rien. Comment ils vont être sauvés ? Tu n'entends rien, tu ne vois rien. Ça fait 40 ans que tu es là, tu as tellement l'habitude qu'il ne se passe rien, quand il se passe un truc, tu critiques. J'ai vu, j'ai entendu, ça me fait mal. J'ai entendu les cris du péché, de ses souffrances, de ses douleurs. Je suis descendu, je suis venu, moi je me suis bougé pour que ça change. Mais Moïse, il ne voit rien. Moïse, il n'entend rien. Moïse, il ne comprend pas. Moïse, pourtant, mais est-ce que Moïse, ce n'est pas quelqu'un de bien ? Mais si ! Mais Moïse, mais c'est un mec génial. Moïse, c'est un bon frère. C'est un bon papa. C'est un bon mari pour Séphora. Moïse, c'est un bon gendre, puisqu'il fait paître le troupeau de son beau-père. Il fait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Donc Moïse, oui, c'est un bon gendre. C'est un bon papa, c'est un bon berger. Excusez-moi, Moïse, quelque part, c'est un bon pasteur. Il s'occupe bien de ses brebis. Mais ce qui se passe dehors... Alors Moïse, c'est quelqu'un de bien. Le problème de Moïse, c'est que ça fait 40 ans qu'il est totalement déconnecté. Il ne voit plus, il ne sait même pas, je vais vous montrer, il ne sait même pas vraiment qui est Dieu. Il ne voit rien, il n'entend rien et il ne fait rien. En opposition avec la révélation du cœur de Dieu. Et Dieu va apporter par le feu, c'est le rôle du Saint-Esprit, de réveiller les consciences, et Dieu va réveiller sa conscience. Il va premièrement se révéler à lui, et ensuite il va susciter une vocation pour aller délivrer ceux qui sont sous l'emprise de la servitude. Tout comme le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, a réveillé les consciences, il a honoré le sacrifice vivant de ceux qui étaient là dans la chambre haute, il a réveillé les consciences, il s'est révélé, et puis il a apporté, il a suscité une vocation pour que les disciples deviennent réellement ce que Jésus voulait qu'ils soient et puis qu'ils gagnent le monde pour lui. Il a eu une révélation, il a eu un réveil de sa conscience et il a eu une vocation personnelle. Et ce qui m'a interpellé dans le texte, c'est que Dieu lui dit, regardez bien, c'est pas anodin que Dieu ait dit ça. Au verset 5 et au verset 6, Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, verset 5, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Pourquoi ce lieu était-il un lieu mis à part ? Pourquoi ce lieu était-il exceptionnel ? Pourquoi ce lieu était-il une terre sainte ? De la même façon que ce n'était pas une histoire de buisson. Ce n'était pas non plus une histoire de lieu. Il est dans un désert. Et la définition du désert, c'est que dans un désert, il n'y a rien. Donc ce n'était pas une histoire de lieu. Ce qui est important ici, on retrouve la même révélation chez Josué, par exemple, et tant d'autres. Tout à l'heure, la chorale nous a lu Ésaïe chapitre 6. Avant de dire « Me voici Seigneur, envoie-moi », il a eu sa propre révélation, sa propre rencontre. Josué avait eu aussi son propre tête-à-tête, son face-à-face avec Dieu. Il était dans les plaines de Jéricho, il était face à des défis immenses, il était face à... des ennemis qui étaient là en nombre, un défi considérable. Mais il fallait avant toute chose qu'il ait sa propre révélation. Et Dieu dit aussi à Josué, ôte tes souliers de tes pieds. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et ce lieu est un lieu saint, non pas parce que c'est le buisson que je suis, pas à cause du contexte ou du désert, mais parce que c'est la présence de Dieu qui avait fait à ce moment-là toute la différence. Il lui fallait sa propre révélation, une révélation personnelle de la nature de Dieu, de qui est Dieu. Le feu de l'esprit, c'est un esprit de révélation. Jésus dit, il, le Saint-Esprit. vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera, il vous le communiquera. C'est un esprit de révélation. Il révèle Jésus, il m'enrichit de ce qui est à Jésus. Il le rend aussi tellement plus réel. Dieu, chers frères et sœurs, chers amis, Dieu n'est pas un concept dans ma tête. Ce n'est pas une suite de « il faut, il ne faut pas ». Ce n'est pas un code mathématique ou moral, fût-il évangélique, logique ou autre. Dieu est une personne vivante que je peux ressentir qui est bel et bien réelle dans mon être intérieur. Et je suis appelé à avoir ma propre révélation, même si ça fait 40 ans que j'ai l'habitude de fréquenter des chrétiens ou des églises ou que j'ai pris le baptême. Je suis appelé à avoir ma propre révélation de Dieu dans cette dimension personnelle et pratique, un Dieu qui devient tellement vivant, tellement réel, dans un partage de vie, d'avoir cette compréhension intérieure et personnelle de qui est Dieu. Et pardon, frères et sœurs, pour des milliers de chrétiens, Dieu est beaucoup plus souvent bloqué dans leur tête en tant qu'idéologie ou concept qu'en tant que puissance de vie dans leur être intérieur. Et Moïse, il fallait que Dieu le fasse basculer par cette révélation, par ce réveil de conscience. Moïse ne connaissait même pas le Dieu qu'il invoquait, qu'il priait ou qu'il pensait servir. C'est pour ça que Dieu lui dit « Je suis le Dieu de ton père. » Mon brave Moïse, t'as hérité d'une religion évangélique. Il lui a pas dit « Je suis ton Dieu ». Il a dit « Je suis le Dieu de ton père. » Pour l'instant. Il y a une grosse lacune. Il y a une grosse différence. Je suis le Dieu de ton père. Et pour être plus précis, je suis le Dieu d'Abraham. Et on sait comment Dieu est devenu le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Il n'a toujours pas dit « Je suis ton Dieu ». Tu ne peux pas vivre avec le Dieu de ta femme. Tu ne peux pas vivre avec ce que tu sais du Dieu de ton mari. Vous ne pouvez pas vivre avec le Dieu du pasteur. Vous ne pouvez pas vivre avec le Dieu de l'Église. Vous ne pouvez pas vivre avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en connaissance de savoir ce qu'il a fait. Il faut qu'il devienne votre Dieu de façon précise, concrète, individuelle, puissante, dans une révélation de cœur. Et c'est toujours comme ça que ça commence, avant que la conscience des non-croyants soit réveillée. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, il craignait de regarder Dieu. Enfin, Moïse, ça fait 40 ans qu'il est chrétien, ça fait 40 ans qu'il est sorti d'Égypte. Le Saint-Esprit va lui donner une révélation de Dieu comme il n'en avait encore jamais eu. Ben je crois, frères et sœurs, que ça va être un élément déterminant du réveil de l'Église en France aujourd'hui. Amen. Et ensuite, il va y avoir le réveil de conscience des non-croyants. Puisque Moïse est appelé par Dieu, envoyé par Dieu, oui, a été devant Pharaon, oui, il a été délivré le peuple de la part de celui qui s'appelle Je suis. Et après la Pentecôte, oui, ils sont entrés dans les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Oui, après la Pentecôte, il y a eu un réveil des consciences chez les non-croyants et il a commencé à se passer beaucoup de choses. Vous voyez l'ordre logique, l'ordre chronologique, quand tout doit commencer là à l'intérieur et qu'ensuite il y a des répercussions sur l'extérieur. Moi je prie pour une chose, frères et sœurs, c'est que les non-croyants, quand ils me voient, quand ils vous voient, que les non-croyants, ils puissent, comme Moïse avait entendu la voix de Dieu dans ce buisson tout en feu, c'est qu'en vous voyant, vous, tout en feu, ils voient Dieu dans le buisson que vous êtes. Qu'ils entendent la voix de Dieu quand vous leur parlez, sortir de ce buisson que vous êtes. Et puis, il y a une chose qui m'a beaucoup interpellé aussi dans la pratique du feu. Le feu de l'esprit est un feu régénérateur. Et si Jésus a insisté, oui, il a dit à ses disciples, allez par tout le monde. Il leur a dit aussi, ne vous éloignez pas de Jérusalem tant que vous n'avez pas la plénitude du Saint-Esprit. Il ne les a pas envoyés sans rien. Il a exigé, c'était un impératif. Le feu de l'Esprit dans nos vies, frères et sœurs, ce n'est pas une option. Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas une médaille. C'est un impératif de Jésus. Il a imposé, exigé, insisté sur le fait qu'il fallait être rempli du Saint-Esprit en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, parce que ce feu régénérateur, ce feu purificateur, j'en ai besoin. Pas seulement pour convaincre les autres, j'en ai besoin pour ma propre vie. Parce que ce feu amène la vraie sainteté, c'est ce que j'appelle le feu tactique. Le feu tactique, ou ce qu'on appelle aussi le contre-feu. Vous pourrez chercher, je vais vous expliquer, vous vérifierez sur Internet. Le contre-feu, c'est une... Il n'y a que les pompiers qui ont le droit de faire ça. Hein. Attention, hein. Il faut être un professionnel pour maîtriser ça. Ce qu'on appelle le feu tactique, le contre-feu, parfois on parle aussi de feu dirigé. C'est un feu que les pompiers allument volontairement. Ils allument un feu volontairement pour empêcher la propagation des autres feux, d'un feu destructeur. Je vous ai mis ça ici, regardez, quelques images. Alors, je ne sais pas si on voit trop bien. Ça m'a toujours interpellé. La technique qu'ils ont, quand certains feux arrivent et sont menaçants, s'ils savent qu'ils vont avoir du mal à contenir ce feu, tellement il est puissant, tellement il est grand, et ce feu puissant et destructeur qui est grand et qui dure depuis longtemps, et qu'on a du mal à combattre dans nos églises, il ne faut pas se leurrer, s'appelle le feu du péché, le feu de l'iniquité. Et quand ce feu puissant, on sait qu'il va arriver, on sait qu'il va venir, qu'est-ce qu'on fait ? Les pompiers, eux, quand ils voient un feu puissant arriver, ils vont allumer le feu tactique. Ils vont volontairement brûler une parcelle de terre, ce qui fait que lorsque le feu destructeur va arriver, il va être privé de combustible. Il n'y aura plus rien à brûler. Et comme il n'y a plus rien à brûler, il va s'éteindre, il va s'arrêter. Ici, vous avez aussi l'image d'un pompier, vous voyez ce qu'il a à la main, c'est ça, hein, feu tactique, contre-feu, alors ce sont des professionnels, vous ne jouez pas à ça chez vous, hein. Ils connaissent, ils maîtrisent très bien le sens du vent, c'est pour ça qu'on appelle ça le feu dirigé, et vous voyez avec ce qu'il a à la main, il passe dans son champ, et il est en train d'allumer volontairement, il est en train de mettre le feu. Il n'y a pas un texte de l'évangile où Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et le pompier ici, il est en train de volontairement brûler une parcelle de ce champ, de sorte que lorsque le feu contraire, le feu destructeur va arriver, il n'est plus rien à brûler. Comme il n'y a plus de combustible, il va s'éteindre, il va mourir tout seul. Qu'est-ce que ça m'enseigne pour moi aujourd'hui ? La première chose qu'il faut considérer, frères et sœurs, il ne faut pas se leurrer, je le dis aux chrétiens et je le dis aussi aux amis qui sont là aujourd'hui avec nous. Nous sommes tous des buissons. Et nous sommes tous faits par nature, nous sommes faits pour brûler. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sacrifierons tous quelqu'un, quelque chose, tôt ou tard, sur l'autel de je ne sais pas quoi, mais tous on va sacrifier parce qu'on est des sacrificateurs, c'est notre vocation. Nous sommes tous aussi des sacrifices. Ta vie, tu la sacrifieras de toute façon. À quoi ? Je ne sais pas. À qui ? Je ne sais pas. Mais ta vie, tu vas la sacrifier, c'est obligatoire, c'est dans ton ADN, c'est plus fort que toi, inconsciemment, tu sacrifieras. Tu es un buisson, tu vas brûler. De quoi tu vas brûler ? Par quoi tu vas brûler ? Pourquoi tu vas brûler ? Jésus est clair, il préfère que ce soit pour le feu de l'esprit. Parce que ce feu de l'esprit, ce feu tactique, ce contre-feu, le feu de l'esprit vient de Jésus. Jésus l'allume directement et son but, c'est de faire mourir le feu destructeur du péché avant qu'il ne consume ma vie. Le feu tactique va créer un vide. Il n'y a plus rien à brûler. Quand sur mon lieu de travail va venir le feu destructeur de la tentation, mieux vaut que mon cœur soit déjà brûlant pour Jésus, ce qui fait que quand le péché de l'infidélité conjugale se pointe, ben il n'a plus rien à brûler. Je suis déjà en feu pour le Seigneur d'un feu plus puissant. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne brûler en moi ? Il n'y a rien à brûler en moi. Je brûle déjà de façon plus puissante pour le maître. Vous comprenez ? Quand le feu de la pornographie, et ça ne touche pas que les hommes, ça touche aussi les femmes, quand le feu de la pornographie, le feu destructeur vient, comment je fais pour résister ? Avec une morale évangélique ou avec la puissance du Saint-Esprit ? Ah oui, on peut parler de pornographie, on peut parler de sexe dans les églises, hein. Oui, on a le droit. Hein. Il y a trois problèmes principaux à l'être humain. L'orgueil, le sexe et l'argent. Il faut parler de ça. Hein. Quand vient le feu destructeur de la pornographie, comment je résiste ? Parce que le feu du Saint-Esprit a déjà, non pas calciné ma vie, mais il a déjà fait brûler ma vie. Et quand ce feu arrive, il n'y a rien à brûler. Je suis déjà en feu pour lui. Quand va venir le feu des mauvaises pensées, quelles qu'elles soient, avec quel feu je vais éteindre l'incendie qui tourne dans ma tête et dans mon cœur ? Lorsque va venir le feu du péché sous toutes ses formes, lorsque va venir le feu destructeur de la jalousie dans un couple, comment je vais l'éteindre ? Il y a des chrétiens, pardon, des maris, des femmes, ça fait 30 ans qu'ils essayent à coups de lance d'eau à incendie, ils essayent d'éteindre. Ça ne marche pas. Il n'y a que le feu de l'esprit, si je brûle de l'esprit, qui va faire que la jalousie n'a plus rien à brûler dans mon cœur. Et que dire de ceux qui sont consumés par le feu de la rancune, le feu de l'amertume, le feu du dépit, ceux qui sont brûlés par le feu du découragement ? Que dire de ceux qui sont brûlés par le feu de la vengeance ? Oui, on peut être chrétien et être brûlé par un désir intense de se venger. Comment est-ce que, alors que je suis chrétien, je vais contrer le feu du jugement ? Il y en a, c'est plus fort qu'eux. Ils jugent. C'est plus fort qu'eux. C'est un feu destructeur. Comment est-ce que je vais contrer le feu de... Jacques, dans son épître, a dit « La langue aussi est un feu. » La langue aussi est un feu. Comment est-ce que je vais contrer le feu de la langue, de la critique ? Le feu de l'esprit. L'esprit d'amour, l'esprit de compassion, etc. Je ne juge personne. Combien de chrétiens ont succombé au feu de la maladie ? Quand vous êtes, comme dit Pierre, vous êtes dans la fournaise de l'épreuve. Four, feu, épreuve. Combien ont succombé ? Comment est-ce que je fais pour lutter contre le feu de la maladie ? Parce que ça brûle intérieurement, c'est destructeur, c'est dur. Quand on passe par une période de maladie, on peut vraiment, spirituellement, il se passe des tas de choses, c'est extrêmement dur. Il faut avoir de la compassion pour les gens qui sont malades. Il n'y a pas de yaka faucon avec les gens qui sont malades. Il faut de la compassion. Quand vient le feu de la dépression ? La dépression, c'est hyper destructeur. La dépression, on ne la règle pas avec trois textes bibliques et des yaka faucons. La dépression, c'est quelque chose de très sérieux. Et il faut beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup de compassion pour celui qui est dans la dépression. Comment est-ce que je vais lutter contre tous ces feux-là ? Et aujourd'hui, en France, nous, merci Seigneur, ça ne nous touche pas de trop. Mais dans les actes et dans pour 250 millions de chrétiens aujourd'hui dans le monde, 250 millions, quand vient le feu de la persécution, comment on fait ? Avec un Dieu idéologique, avec des concepts, avec de la morale ? Comment on fait ? Face au feu de la persécution, Pierre et Jean, après avoir guéri, le Saint-Esprit a guéri le boiteux à la porte du temple. Mais c'est par Pierre que c'est passé. Une fois que ça a été fait, vous connaissez l'histoire. Ça n'a pas plu à tout le monde, une guérison, ça ne fait pas applaudir tout le monde. Les chefs religieux, ils les ont attrapés, ils les ont menacés, ils les ont mis en garde à vue, ils les ont auditionnés, et puis ensuite, ils les ont relâchés avec les menaces de ne surtout plus jamais parler de ce Jésus dont on ne voulait surtout pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des compromis ? Non, ils ont fait une pétition ? Non, ils ont fait une manif dans la rue ? Non, ils ont gémi devant Jésus pour qu'on ne soit plus jamais « Seigneur, fais qu'il nous aime, faut pas que ça recommence, Seigneur, protège-nous, faut pas que... » ils ont été voir les frères, les sœurs, les disciples qui étaient là. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et qu'est-ce qui est venu ? Un feu encore plus puissant en acte 4 qu'en acte 2, parce que la Pentecôte, c'est permanent. Et ils ont reçu un feu qui était encore plus puissant que le précédent pour contrer le feu de la persécution. Avec le feu régénérateur permanent du Saint-Esprit, qui est le feu tactique, qui est la solution par excellence pour tous les feux destructeurs qui vont se présenter à moi dans ce monde pendant tout le temps de ma marche chrétienne. Il y a une chose qui est sûre, frères et sœurs, je termine avec ça. Nous sommes faits pour brûler. La question, c'est de savoir pourquoi, pour qui, par quoi, par qui est-ce que nous allons brûler ? Jésus, lui, il a fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit par le feu du Saint-Esprit, par le feu de la Pentecôte, que nous puissions brûler de façon permanente. Mieux vaut que je brûle de l'Esprit avant que ne viennent les autres feux de ce monde. Ma plus grande assurance, ma plus grande protection, ma plus grande sécurité, c'est de vivre une vie en feu, de lui, par lui et pour lui. Et si Dieu me dit, je veux que tu vives une vie en feu, par le feu de la Pentecôte, par le feu du Saint-Esprit, c'est aussi d'abord dans mon intérêt. Amen.